Je vous invite à prendre votre Bible et à regarder avec moi dans Jean chapitre 5. Et aujourd'hui, cette étude est tirée des versets 31 à 47. Et je voudrais vous parler des témoins de Jésus-Christ. Peut-être qu'en lisant la Bible, étant convaincu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et le sauveur des pécheurs, on pourrait peut-être imaginer pourquoi il a besoin de témoins. Ce qui est sûr, c'est que la Bible dit que toute affaire doit se régler sur la déclaration de deux ou de trois témoins selon la loi. Donc, Christ étant venu dans le monde et lui-même il était assujetti à la loi de Dieu. Il fallait ça pour qu'il soit le sauveur, le substitut. Donc, pour cela, il suit la loi, même en ce qui concerne son témoignage. Et c'est pourquoi nous lisons ici dans Jean chapitre 5, à partir du verset 31, il dit, « Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. » Il ne voulait pas dire par là qu'il était un trompeur ou un menteur, mais il suit ici la loi, où la loi dit qu'il faut que toute affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Donc face à la loi, si c'est lui-même seul qui témoigne de lui-même, donc cela ne pouvait pas satisfaire aux exigences de la loi. Donc, c'est pourquoi il dit « mon témoignage n'est pas vrai ». Cela veut dire uniquement son témoignage. Donc, pour cela, nous avons dans ce passage, dans mon texte, les témoins de Jésus-Christ. Et c'est lui, en tant que juge et mais dans la chair, en tant qu'homme, qu'il fournit lui-même ses témoins. Et il dit ici dans le verset 32, « Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. » Donc, il y a un au-dessus de tous les témoins qui rend témoignage de Christ, et donne honneur à Christ au-dessus de tous les autres témoins. Mais d'abord, Christ va commencer au plus petit pour aller au plus grand témoin. Donc, c'est pourquoi il commence avec Jean Baptiste comme son premier témoin. Il dit dans le verset 33, « Vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. » C'est-à-dire, il a rendu témoignage de Christ, qui est la vérité. Jean-Baptiste, quand les gens sont venus vers lui pour lui demander, est-ce que tu es celui qui devait venir, c'est-à-dire le Messie, il a dit non. Celui qui vient après moi, il n'était même pas digne de celui qui devait venir, c'est-à-dire le Christ. Il a dit, je ne suis pas la lumière, il est la lumière. Donc, Christ dit dans le verset 34, « Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. » Nous savons que Dieu emploie des moyens, quoiqu'il est souverain, et c'est lui qui décide le salut des pécheurs. Et il n'est pas, ce n'est pas qu'il a besoin des témoins ou bien des témoignages des hommes pour sauver les pécheurs, mais c'est le moyen qu'il a ordonné à ce que les pécheurs entendent l'évangile, que ce soit à travers les témoignages des hommes comme Jean-Baptiste et d'autres que nous trouvons ici dans les Écritures. Donc c'est pourquoi il dit, pour moi ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Nous savons en lisant la Bible que si quelqu'un est sauvé, c'est-à-dire qu'il est appelé des ténèbres à la lumière. Cela ne se passe pas par hasard, mais c'est Dieu lui-même qui envoie des témoins, des prédicateurs de l'évangile dans le monde pour annoncer cet évangile qui glorifie le Seigneur Jésus uniquement et son œuvre accomplie à la croix. Il y a beaucoup de voix aujourd'hui dans le monde qui parlent et qui professent être envoyés de Dieu. Donc comment est-ce que nous pouvons reconnaître la véritable voix de celui que Dieu a envoyé dans le monde et par laquelle Dieu attire des pécheurs à Christ? C'est des prédicateurs qui prêchent Christ et Christ crucifié. Et c'est par ce moyen que Dieu lui-même a déterminé, sauvé, appelé à Christ des pécheurs. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 18, nous lisons « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » Ça, il s'agit des hommes religieux qui n'ont pas le temps pour le message de Christ et Christ crucifié, le message qui glorifie Christ seul. Les gens veulent entendre des messages qui leur donnent des devoirs, de quoi faire pour s'approcher de Dieu. Ce sont des prédicateurs des œuvres ou bien de la volonté de l'homme. Ceux-là périssent parce que c'est écrit car la prédication de la croix est une folie pour ceux-là qui périssent. Mais notez bien, mais pour nous qui sommes sauvés, sauvés comment? Depuis l'éternité, Dieu a fait son choix. Il a choisi les pécheurs qui devaient être sauvés. Et pour cela, il a envoyé son Fils unique dans le monde pour sauver les pécheurs que le Père lui a donnés, sauvés par sa mort, son sang versé. Sans l'effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Il fallait la mort de l'agneau de Dieu, le Seigneur Jésus. Donc, sauvé par son œuvre accomplie à la croix, mais aussi sauvé par l'appel de l'Esprit à travers l'Évangile. Je peux dire que si vous êtes sauvé aujourd'hui, c'est que Dieu a envoyé son Esprit à travers un prédicateur de l'Évangile, un témoin de Jésus, comme Jean, le baptiseur lui-même, était un témoin du Seigneur Jésus. Et par là, le Saint-Esprit vous a attiré à Christ, vous a convaincu de votre état de perdition, et a tourné vos regards à Christ et à Christ seul. Et cela, 1 Corinthiens 1:18 dit, c'est par la puissance de Dieu. Elle est une puissance de Dieu, la prédication de la croix. C'est pourquoi nous devons insister là-dessus, quelle que soit l'incrédulité des hommes. Donc voilà un des témoins de Jésus-Christ que nous avons ici, dans la personne de Jean. On l'appelle Jean-Baptiste, ce n'est pas qu'il est le fondateur de la dénomination baptiste, mais en fait, c'est Jean le baptiseur, celui qui baptisait, immergeait les gens qui sont venus à lui et voulaient confesser le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le moyen biblique de confesser et de professer la foi en Jésus-Christ. C'est d'entrer dans l'eau et d'être immergé. Toutes ces méthodes utilisées aujourd'hui par les prédicateurs qui demandent les gens lever la main, ou bien baisser la tête, ou bien réciter une prière, tout cela, nous ne trouvons pas dans la Bible. Le moyen biblique, c'est d'entrer dans les eaux de baptême et se faire immerger, parce que ça représente la mort du Seigneur Jésus et sa résurrection. Donc, c'est de Jean le baptiseur ici que Christ témoigne et il dit, il a été envoyé devant Christ, pas pour être exalté au-dessus de Christ, non, mais comme un serviteur qui va devant le roi pour préparer le chemin. Et cela afin, il dit, que vous soyez sauvés. Christ ne prétendait pas croire que tous ceux qui entendaient la voix de Jean-Baptiste devaient être sauvés, non. Il savait ce qui lui appartenait. Pourtant, le message doit être annoncé à tous, même ceux qui ne sont pas élus, parce que ce message servira alors pour leur condamnation à cause de leur incrédulité. Le salut pour les élus de Dieu, mais le même message, la condamnation, à cause de l'endurcissement des cœurs. C'est pourquoi Christ dit ici, dans le verset 35, « Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. » Cela nous montre déjà que le ministère de Jean le Baptiste ne devait pas être pour toujours. D'ailleurs, son ministère a été coupé après un an de prédication. Il a perdu sa tête. Et cela selon la volonté de Dieu. Mais le petit temps qu'il était là et qu'il a prêché et qu'il était devant le Seigneur Jésus en train d'annoncer sa venue, c'était exactement le temps que Dieu a voulu pour lui. Il n'était pas la lumière. Il était ici comparé à une lampe qui brûle. Et nous savons à l'époque, une lampe brûle aussi longtemps qu'il y a l'huile pour l'animer. Et après un temps maintenant, ça luit. Et pendant que la lampe est allumée, alors les gens se réjouissaient. Les gens aimaient aller regarder cet homme qui prêchait dans le désert. On le trouvait bizarre et curieux. Donc, par curiosité, ils sont partis pour l'écouter. Mais c'était pour un temps et puis il devait disparaître. Telle était la volonté de Dieu. Et cela, pour ne pas que les gens mettent leur confiance dans les hommes. Et c'est très important aujourd'hui pour nous qui sommes des prédicateurs, nous ne sommes pas ici pour toujours. Donc notre désir n'est pas de rassembler autour de nous une foule qui nous suit. Non, notre devoir, c'est de prêcher Christ et dire aux pécheurs d'aller à Christ et de se soumettre au Seigneur Jésus-Christ comme l'unique sauveur. Nous ne sommes pas là pour attirer les gens vers nous, mais plutôt pour qu'à travers le message que le Seigneur nous donne, leur cœur, par l'Esprit de grâce, soit attiré à Christ. Donc, Christ parle de Jean ici comme un de ses témoins. Et Jean le Baptiste a joué un rôle très important à l'époque. Et c'est de ça que l'apôtre Jean, ça fait deux différents Jean, Jean le Baptiste et puis celui qui écrit ici, l'apôtre Jean, qui était un des disciples de Christ. Mais, donc ça c'est le premier témoin. Je disais tout à l'heure, il commençait au plus petit et puis il va maintenant au plus grand témoin. Donc, deuxièmement ici dans le verset 36, il dit « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. » Les gens étaient fascinés par le ministère de Jean-Baptiste, mais Christ dit, « J'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. » Et il dit, « Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi. » Que c'est le Père qui m'a envoyé. Donc, ici, comme témoin, Christ s'appuie sur ses œuvres. Il s'agit là des miracles qu'il faisait. Comment est-ce que nous savons que le Seigneur Jésus est le Messie? Que Jésus de Nazareth, il faut savoir, Nazareth n'était pas une grande ville. Alors, Christ est venu dans ce monde selon la volonté de Dieu et il a débuté sa vie sur cette terre dans toute humilité. C'est ça qui faisait étonner les gens, le fait qu'il était physiquement d'une famille, d'une charpente, un charpentier qui faisait son métier et son village n'était pas très populaire, Nazareth. Pourtant, il dit, j'ai ici un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres, et notez bien, que le Père m'a donné d'accomplir. Christ ne faisait pas des miracles au hasard, simplement pour impressionner les gens. Chaque miracle que nous avons ici dans les Écritures avait pour but, premièrement, de témoigner de Christ qu'il est en réalité le Fils de Dieu, et deuxièmement, selon l'Ancien Testament, lorsque le Messie devait venir, donc il dit que les boiteux allaient marcher et les sourds allaient entendre et ceux qui sont morts retrouveront encore la vie, comme le cas de Lazare. Ça, ce n'est pas un simple homme qui fait ces miracles-là, mais le Dieu-homme. Donc, quoique cette foule ne croyait pas en Christ, il dit les témoins concernant ses œuvres qu'il accomplissait étaient même plus grands que celui de Jean, parce que les gens ont pu voir physiquement, visiblement, avec leurs yeux, ces œuvres que Christ faisait. Mais il faisait tout ce qu'il faisait conformément à la volonté de son Père. Voilà ce que nous lisons, que le Père m'a donné d'accomplir. Le Père œuvrait et le Fils œuvrait. C'est l'harmonie que nous voyons entre le Père et le Fils en tout ce qui concerne le salut des pécheurs. Et c'est pourquoi Christ dit, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Donc nous ne devons pas douter. Quand Jean-Baptiste était en prison et il a envoyé des délégués auprès de Christ pour lui demander est-ce qu'il était véritablement le Messie ou bien est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qu'on entendait, vous vous rappelez de la réponse du Seigneur Jésus-Christ. Il a cité un passage dans Ésaïe pour dire à Jean-Baptiste, par exemple, dans Ésaïe 61, à partir du verset 1, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. » Le nom Christ, c'est un titre. Ça signifie le oint de Dieu. Comment est-ce que Christ était le oint de Dieu? Selon ce verset, dans Ésaïe 61, le verset 1, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Tout ce que Christ faisait, c'était à travers l'Esprit de l'Éternel. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Alors, toutes ces choses que Christ faisait servaient de témoin de lui. Le fait qu'il était en réalité, celui qui devait venir, le Messie. Et puis nous continuons ici au plus grand témoin. Donc nous avons commencé avec le plus petit, maintenant nous allons au plus grand. Et le verset 37 nous dit, « Et le Père qui m'a envoyé a rendu témoignage lui-même de moi. » Mais Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Il faut se rappeler que, qu'à travers le ministère du Seigneur Jésus, deux fois, Dieu le Père a fait entendre sa voix du ciel, disant « Ceci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Alors, ça c'est important de comprendre que plus que tout autre témoin, il y a le témoignage de Dieu le Père lui-même. Et il faut savoir que c'est pour ça que Christ est venu. C'est pour la satisfaction de Dieu le Père, afin que Dieu soit juste tout en justifiant les pécheurs qu'il a donné à son Fils de sauver. Donc, le regard de Christ était toujours sur son Père, de sa conception jusqu'à sa mort. C'est le Père qui avait sa main sur son Fils pour assurer que tout ce que le Fils faisait et tout ce qu'il disait était à sa gloire et à la satisfaction de sa justice et de sa sainteté. C'est pourquoi Christ devait venir en tant que substitut. C'est impossible à nous, en tant que pécheurs, étant déjà dans un état de péché, de satisfaire à Dieu le Père. C'est la folie d'imaginer que nous pouvons nous approcher d'un Dieu saint et être reçus ou écoutés sans la médiation du Seigneur Jésus-Christ. Il nous faut un représentant, autrement nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu. Alors c'est pourquoi Christ dit que le témoignage de Dieu, le Père, que le Père a rendu de lui-même, voilà le témoignage qu'il faut. Et c'est ce que nous avons à travers la Bible, parce que tout ce que nous lisons ici, c'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu n'est pas autre que Christ lui-même. Donc, Christ appelant ses témoins, Jean-Baptiste, et ses miracles, et le Père, voilà les deux ou trois témoins selon la loi, par lesquels toute affaire devait se régler. Mais les gens n'écoutent pas. C'est écrit, vous n'avez jamais entendu sa voix. Donc, si un homme n'a jamais entendu la voix de Dieu, comment est-ce que nous pouvons le connaître? La Bible est claire là-dessus. C'est à travers la voix du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que Christ était en train de parler à ses disciples dans Jean 14. Et il a dit dans le verset 4, « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Christ parlait là de sa mort, parce qu'il avait déjà dit à ses disciples qu'il n'est pas venu sur cette terre pour vivre toute sa vie avec eux sur la terre. C'était une mission précise qu'il est venu accomplir, c'est-à-dire donner sa vie en rançon pour les péchés du peuple que le Père lui a donné. Mais Thomas lui dit, et j'aime beaucoup la transparence de ses disciples, ça c'est une œuvre de l'Esprit, qui ouvre la bouche et qui confesse l'ignorance et le besoin d'être enseigné de Christ. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Et Christ n'a pas critiqué sa question, seulement il a donné la réponse. Dans le verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cela ne veut pas dire que Christ attend maintenant la décision de l'homme et puis il va bénir maintenant cette décision de suivre Christ. Non. Quand c'est écrit ici, nul ne vient au Père que par moi, le Seigneur Jésus est en train de dire, si Christ lui-même ne se révèle dans le pécheur, aucun pécheur ne peut connaître le Père. C'est pourquoi il dit dans notre texte, dans Jean 5, là, que vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Aucun pécheur ne peut dire qu'il a entendu la voix de Dieu. Lorsque Dieu parle, il parle toujours à travers son Fils. Lorsqu'il se révèle à un pécheur, c'est à travers son Fils. C'est pourquoi le Seigneur est en train de dire que son témoignage lui-même au sujet du Père est le plus grand. Le témoignage du Père pour le Fils et le témoignage du Fils envers le Père. Voilà le témoignage qu'il nous faut. Mais c'est Christ qui autorise. Ça, c'est le sens-là. Nul ne vient au Père que par moi. C'est le Seigneur Jésus qui autorise qui entendra sa voix et qui restera sourd. Il y en a qui n'aiment pas cela, parce qu'ils veulent que le salut dépend de l'homme. Mais le salut de la Bible ne dépend pas de l'homme. Ça dépend du Dieu homme, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. Alors, nul ne vient au Père que par moi. C'est pourquoi Christ dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ça, c'est important de voir. Parce qu'il y a la divinité, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Donc, arrivé maintenant au ciel, qui est-ce que nous anticipons voir? Dieu le Père se révèle uniquement à travers son Fils. Donc, il n'y a pas au ciel le Père d'un côté, puis le Fils, et puis voilà le Saint-Esprit. Non, toute la divinité réside dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissiez et vous l'avez vu. Tous les attributs de Dieu sont révélés dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous prêchons Christ et nous étudions sa vie et nous étudions sa mort, parce que tout ce qui doit être révélé du Père, il révèle à travers son Fils. Mais encore, la transparence, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Alors voilà la réponse à cette question, comment voir Dieu? Ce n'est pas avec des yeux physiques. Je sais qu'il y a des gens aujourd'hui partout le monde qui prétendent avoir vu Dieu dans une vision et pas de ces visions. Mais je vous dis que ces visions, leurs témoignages, les témoignages de ces hommes sont vides de ce que nous sommes en train de lire ici au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Je peux vous dire que j'ai vu Dieu, mais ce n'est pas avec mes yeux physiques. Je peux vous dire que j'ai entendu la voix de Dieu, mais ce n'est pas une voix audible où je peux dire, ah oui, mais c'est de cette manière qu'il m'a parlé. Non. J'ai vu Dieu dans la personne du Seigneur Jésus, révélé ici à travers le témoignage des Écritures saintes que le Seigneur lui-même a inspiré par son esprit. Voilà comment voir Dieu, voilà comment entendre sa voix. C'est l'Esprit qui prend cette parole qui concerne Christ et révèle Christ au cœur. C'est la seule manière que nous pouvons voir Dieu ou bien entendre sa voix. Et c'est pourquoi Christ continue dans le verset 38 et en dit, vous n'avez point vu sa face, pourtant il était devant eux comme Dieu dans la chair. Ils étaient en train de regarder la face de Dieu dans la personne du Seigneur Jésus. Pourtant, ils ne voyaient pas parce qu'ils étaient aveugles. Et tel serait notre cas si ce n'est la grâce de Dieu qui nous ouvre les yeux spirituels. Voilà ce qu'il faut. Ça revient toujours à ce que Christ a dit à Nicodème, que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voir comment? Voir spirituellement. C'est pourquoi je prêche Christ tel qu'il est révélé ici dans les Écritures. Mais ce n'est pas à moi d'ouvrir les yeux. C'est l'Esprit qui prend cette parole au sujet de Christ et qui révèle Christ au cœur de ceux pour qui Christ est venu. La raison pour laquelle ces hommes, quoique religieux, quand les gens voyaient ces hommes à l'époque, c'était des hommes qui avaient une certaine moralité devant les hommes et ils dirigeaient le peuple. C'est comme aujourd'hui, les gens suivent leur prédicateur. Et pourtant, Christ dit de eux, dans le verset 38, et le même témoignage pouvait être rendu aujourd'hui, les prédicateurs partout dans le monde, il dit, sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. C'est important de comprendre le sens de ce passage. Christ n'est pas en train de dire, puisque vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire à Dieu le Père, donc, pour cela, alors la parole ne demeure point en vous. C'est le contraire. Le fait de ne pas croire, c'est la preuve que la parole ne demeure point en vous. Oh, ils étaient des hommes qui professaient connaître Dieu comme beaucoup aujourd'hui. Être chrétien, selon la définition des hommes, est très populaire aujourd'hui. Mais je dois vous dire que beaucoup qui professent connaître Dieu ne le connaissent pas. La parole ne demeure point en eux. Quand c'est écrit, la parole ne demeure point en eux. Il y en a beaucoup qui mémorisent les Écritures et qui s'imaginent que puisqu'ils ont la parole dans leur pensée et ils peuvent réciter beaucoup de versets, que alors la parole demeure en eux. Non. Ici, la parole égale Christ. Donc, ils ont mémorisé cette parole sans connaître Christ. Voilà la différence. Beaucoup lisent cette parole avec une certaine dévotion. Pourtant, ils sont encore dans les ténèbres parce que Christ ne leur a jamais été révélé. Et la preuve, c'est que quand on va dans ces milieux, parce que les gens se réunissent pour entendre, écouter la parole, selon eux. Mais si un prédicateur de Christ arrive et qu'il commence à annoncer Christ tel qu'il est dans ses Écritures, voilà une réaction. J'ai vu ça à travers le ministère de l'Évangile que le Seigneur m'a donné depuis des années. Des milieux où les gens m'invitent et disent, ah oui, nous voulons entendre prêcher la parole. Venez prêcher la parole. Et quand je me lève maintenant pour annoncer Christ qui est la parole, et leur dire que cette parole s'agit de Christ, et de Christ crucifié du début jusqu'à la fin, les gens se révoltent parce que pour eux, on trouve différentes choses dans la parole. Et pour eux, ils veulent entendre des prédications sur les règlements de vie et comment vivre une vie de bonheur et comment être un témoin. Tout est centré sur l'homme. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ceux qui cherchent à pervertir cette parole et détourner le sens pour mettre l'accent sur l'homme font cela parce que, comme Christ dit ici, sa parole ne demeure point en eux. C'est tout ce qu'on peut conclure. Quelle que soit l'apparence, quel que soit leur témoignage, si Christ n'est pas révélé en eux, alors ils sont encore dans un état de perdition sans le savoir. C'est pourquoi, dans le verset 39 de Jean 5, Christ dit, vous sondez les Écritures. C'était leur habitude. Quand on parle des scribes, il n'y avait pas d'imprimerie à l'époque, donc c'était à ces hommes-là de transcrire les Écritures, faire des copies exactes des Écritures. Donc, ils sondaient les Écritures, mais ils pensaient par là avoir la vie éternelle, comme beaucoup aujourd'hui, puisqu'ils ont une Bible et ils vont dans leur lieu de culte et ils prennent le temps d'adorer. Ils s'imaginent alors qu'ils sont à Dieu. Mais Christ dit ici, vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc voilà un quatrième témoin que Christ donne ici. Il parlait de Jean-Baptiste. Et il parlait de ses œuvres qu'il faisait. Il parlait comme témoin de son Père qui rendait témoignage de moi. Et maintenant, il ajoute ici dans le verset 39, même les Écritures que les gens lisent rendent témoignage de lui. On peut peut-être se demander, mais comment est-ce que les gens peuvent lire cette même parole que nous lisons et tirer d'autres conclusions? Il faut savoir que il y a beaucoup de dénominations dans le monde, beaucoup de religions qui prennent leur confession de foi de la Bible. Pourtant, ces religions, ces dénominations sont diverses. En fait, ces dénominations ne s'entendent pas. Pourtant, nous avons la même Bible. Alors, comment est-ce que j'arrive moi-même à lire ces mêmes paroles et prendre ce passage pour annoncer Christ et Christ seul? Pourtant, d'autres vont prendre un passage pour parler du devoir de l'homme. Par exemple, quand Christ a dit ici que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé, alors les prédicateurs vont prendre ça pour dire aux gens, mais la décision dépend de vous. Pourtant, c'est pas ce que Christ a dit. Christ n'est pas en train de doiter ces gens pour dire vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé comme il voulait réellement qu'ils croient. Il est en train de montrer leur état de perdition. C'est une déclaration, c'est tout. Pourtant, les gens veulent prendre de cette parole et en faire une invitation. Et dire aux gens que, voilà, il faut pas être comme ces hommes-là que Christ dénonce, que si vous prenez maintenant cette décision, vous pouvez alors avoir des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Mais ça dépend de vous. Imaginez si Christ disait à Lazare, Lazare, j'aimerais bien te ressusciter, mais hélas, il faut que tu fasses le premier pas d'abord. Et puis ensuite, maintenant, je pourrai faire ce que je dois faire. Un mort, quelqu'un qui est mort ne peut pas faire quoi que ce soit. Donc, Christ n'est pas en train de plaider ici à ce que les hommes fassent quelque chose. Au contraire, il est en train de les dénoncer parce que les voilà avec les Écritures. Ils sondent les Écritures, comme c'est écrit dans le verset 39, pensant avoir en elles la vie éternelle. Mais comment? Les gens pensent avoir la vie éternelle à travers les Écritures par leurs œuvres. Ils lisent la Bible pour prendre le devoir et aller s'efforcer maintenant à obéir à ce qui est écrit afin maintenant qu'ils soient acceptés devant Dieu. Et ça, c'est leur condamnation. Parce que ce n'est pas pour ça que Dieu a donné les Écritures. Selon ce que Christ dit dans le verset 39, le but des Écritures est unique. Il dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc si nous lisons les Écritures sans voir Christ, alors nous lisons aveuglement. Quel que soit le passage, ce n'est pas que cette partie ou bien l'autre partie, voilà, ça parle de, non, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Chaque parole concerne le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est la parole. Alors pour ça, il y a beaucoup qui lisent aveuglement et ils sont encore dans leur incrédulité, quoique religieux. Parce que Christ dit ici, sa parole ne demeure point en eux. Je pouvais dire que si ce n'était la grâce de Dieu révélant Christ en moi, je serais toujours parmi ce nombre qui lit aveuglement la parole de Dieu. Je remercie le Seigneur du fait qu'il a plu à Dieu de révéler Christ en moi. Et je le remercie. Dans le verset 40, Christ dit la raison pour laquelle les gens restent dans l'incrédulité. Et nous allons revenir sur ce sujet la prochaine fois. Il dit, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Les gens aiment venir au culte, ils aiment venir aux traditions, ils aiment venir aux cérémonies, et ils aiment venir à leurs dirigeants, mais ils peuvent faire tout cela sans venir à Christ, parce que nous savons que nul ne peut venir à Christ si cela ne lui a été donné du Père. Dans Jean chapitre 6 et le verset 44, cela est défini. Nul ne peut venir à moi. Les gens pensent qu'ils peuvent s'efforcer à venir. Parce que les prédicateurs leur disent que ça dépend d'eux, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés sans exception. Alors, à vous maintenant de faire l'effort. Mais ce n'est pas ce que Christ est en train de dire ici. Il dit, vous ne voulez pas venir à moi. Voilà pourquoi les gens ne peuvent pas venir, c'est parce qu'ils ne veulent pas venir. Or, ils ont un Jésus qu'ils ont imaginé, c'est comme une idole, et ils tiennent à ce Jésus-là. Et les faux prédicateurs leur ont dit, aussi longtemps qu'ils tiennent à ce Jésus-là, alors ils peuvent espérer. Mais tout dépend d'eux. Ça, ce n'est pas le message du salut de la Bible. Christ dit, vous ne voulez pas venir à moi. Le Christ de la Bible, le Christ souverain, vous savez, le Christ de la Bible n'est pas entre les mains des hommes. C'est le contraire. C'est lui qui détient tous les hommes entre ses mains. Il a reçu l'autorité sur toute chair. Mais c'est écrit dans Jean 17 et le verset 2, afin qu'il donne la vie éternelle à ceux que le Père lui a donné. Alors c'est triste de savoir qu'il y a beaucoup qui professent un Jésus aujourd'hui, qui suivent un évangile, pourtant ce n'est pas le Jésus-Christ de la Bible, et ce n'est pas l'évangile tel que c'est révélé dans les Écritures. Mais là, ça demande à ce que Dieu ouvre les yeux pour que nous puissions contempler Christ dans toute sa gloire. Alors nous allons arrêter là aujourd'hui et la prochaine fois revenir sur le reste de ce chapitre pour savoir pourquoi et comment c'est que ceux qui professent le Seigneur Jésus sont en fait des incrédules et des rebelles et que le Seigneur daigne bénir ce que nous venons d'entendre aujourd'hui.